curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
Toute ma vie, j'ai couru envers un idéal qui était de comprendre la science. Je me suis bien amusé.
La pure connaissance scientifique.
La tête. Le très gros problème qu'on a sur les médias, c'est que le temps de parole n'est pas suffisant pour exprimer la pensée.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Température 37,6.
Bonjour à tous, en route pour une nouvelle Tête au carré avec Marie Guérin aux commandes de l'émission. Le dossier est consacré cet après-midi aux activités du soleil qui, après une longue et surprenante période de torpeur, viennent de redonner des signes de vie avec l'apparition de petites taches solaires à la surface de notre étoile. Et cette reprise tombe à pic puisque la sonde SDO vient d'être lancée afin d'améliorer la compréhension du soleil avec ses éruptions et leurs incidences sur notre planète. Pour nous guider sur la route du soleil, je reçois deux astrophysiciens, Étienne Paria et Alain Sacha Brun, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Étienne Paria, vous êtes spécialiste de l'activité solaire et vous travaillez au LESIA, c'est le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Et Alain Sacha Brun, vous êtes directeur de recherche et chef du laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement au CEA. Alors vous allez nous expliquer pourquoi le Soleil vient justement de connaître une période exceptionnellement longue de léthargie et puis vous nous direz comment se détermine son activité et quelles sont les conséquences des cycle solaire sur notre planète. Vous répondrez également au message des auditeurs qui arrivent en direct sur le site de l'émission sur franceinter.com.
Revue de presse. La revue de presse 2S des sciences.
Alors que les analyses du GIEC sur l'évolution du climat font grand bruit en ce moment, Yves Miseret revient dans le Figaro sur l'histoire des modélisations sur lesquelles s'appuient les experts du climat. Une longue histoire trop souvent méconnue, écrit mon confrère Joseph Masco de l'Université de Chicago. En effet, montrer qu'elles étaient directement liées aux essais nucléaires et à la guerre froide. Les 215 essais nucléaires effectués entre 1945 et 1962 ont eu un impact environnemental qui a transformé le globe et les sciences de la Terre. Les tout premiers modèles de circulation atmosphérique ont ainsi été produits au milieu des années 50 aux États-Unis, dans l'objectif de retracer le déplacement sur l'ensemble du globe des nuages radioactifs provoqués par les explosions de bombes nucléaires américaines dans l'atmosphère, en Alaska et dans le Pacifique. Pour la première fois, la science était confrontée à la possibilité que la planète soit directement menacée par l'homme. Et c'est à ce moment-là que la problématique climatique a elle aussi commencé à émerger. Mais contrairement à aujourd'hui, c'est ce que l'on craignait, bien ce qu'on craignait, c'était un refroidissement global des températures, un hiver nucléaire provoqué par les poussières que les explosions atomiques avaient dispersées dans l'atmosphère. C'est donc la course aux armes atomiques durant la guerre froide qui a déclenché les premières inquiétudes sur la biosphère et plusieurs instruments essentiels dans la modélisation climatique sont issus de cette période, c'est à lire dans le Figaro. Un revêtement qui pourrait révolutionner notre vie quotidienne comme le téflon le fit il y a un demi-siècle, c'est ce que propose Nanopool, une entreprise de nanotechnologie allemande qui vient de mettre au point un matériau imperméable à pratiquement tout, inrayable et résistant à la chaleur. Dans un article du Die Welt rapporté par Courrier International, le journaliste allemand Jörg Zito assure que ce matériau biocompatible et non toxique va permettre des applications très variées, constituées de silice, le minéral qui sert à fabriquer le verre. Il permet en effet d'obtenir une couche de revêtement extrêmement mince, souple et résistante, qui peut aussi bien recouvrir les ustensiles de cuisine, les textiles que les ailes d'avion, encore les feuilles de plantes. Il suffit de déposer le produit à l'aide d'un spray ou d'un pinceau et une fois sec, le verre a une épaisseur d'environ 100 nanomètres, soit 500 fois moins qu'un cheveu. Et comme rien n'accroche sur cette surface glissante, ce matériau s'oppose à la prolifération des bactéries et des moisissures. Il pourrait donc être très utile dans les cuisines, les toilettes et les hôpitaux. Encore plus étonnant, ce film de verre est également suffisamment résistant malgré sa finesse pour protéger les bâtiments. Les autorités turques chargées de la protection des monuments historiques l'ont déjà utilisé à Ankara pour traiter le mausolée d'Atatürk. L'Express cette semaine nous apprend que le prix scientifique international pour les femmes et la science a consacré la biologiste française Anne de Jean Assema, cette chercheuse de l'Institut Pasteur et de l'INSERM, a contribué à identifier les mécanismes à l'origine des cancers chez l'homme. l'homme. Elle a aussi été la première à démontrer que l'hépatite B pouvait dans certains cas conduire à un cancer du foie. Cette palme attribuée par la Fondation L'Oréal UNESCO récompense chaque année depuis 1998 les 5 chercheuses ayant le plus contribué au progrès de la science dans le monde, mais également à la condition des femmes dans ce domaine. Anne de Jean Assema estime justement qu'il faut encore se battre pour que le statut des femmes dans les sciences s'améliore. Mon confrère, par ailleurs, note que la fondation qui récompense aujourd'hui ses travaux vise souvent juste. Deux chercheuses primées en 2008 ont en effet reçu le prix Nobel l'année suivante, l'israélienne Ada Yonat en chimie et l'américaine Elizabeth Blackburn en médecine. Et puis enfin, si vous êtes à Paris aujourd'hui et si vous vous intéressez à la musique et aux nouvelles technologies numériques, je vous signale ce rendez-vous au Musée des Arts et Métiers. C'est à 18h30 ce soir. Comment la numérisation transforme-t-elle aujourd'hui la filière de la musique enregistrée ? Alors que la production de qualité est accessible à tous et que l'on voit émerger une classe d'amateurs dans le domaine, comment les musiciens professionnels s'adaptent-ils à ces mutations ? Ces questions seront abordées ce soir par l'économiste François Moreau, co-auteur du livre « Les musiciens dans la révolution numérique ». Rendez-vous donc à 18h30 au CNAM, 60 rue de Réaumur dans le 3e à Paris. L'entrée est libre, mais l'inscription est conseillée sur le site qui est en lien sur La Tête au Carré.
Derrière la porte, j'ai vu ton ombre m'oublier. Derrière la porte, je tremble, quelques gouttes sont tombées. J'essaie d'essuyer mes cendres, mais l'odeur est restée. Est-ce la peur qu'aime l'ombre, ou bien l'infidélité ? Toujours est-il que je rentre, la lumière s'est allumée derrière la porte. J'ai vu ton ombre m'oublier. Derrière la porte au mensonge, ceux qui disent je n'ai rien fait. Je t'aime comme au premier songe, mais j'étais bien à la clé. J'ai ouvert dans les décombres de mon infidélité. À l'arrière de nos âmes sombres, j'ai vu notre fin se glisser. Hey. J'ai vu ton ombre m'oublier. J'ai perdu ta clé, celle qui ouvrait toutes les portes, lorsque ton bonheur claquait entre mes doigts, sans aucune clé. Je tangue, quelques semaines ont passé. Il est vrai que tu me manques, que je suis seul à m'aimer. Alors je vais du porte à porte, sans jamais rien trouver. Comme si des planches mortes pouvaient changer le passé. Derrière chaque porte, j'ai vu ton ombre m'oublier. Tous les hommes sont des cloportes, prêts à se glisser sous n'importe quel toit. Après ils font moins les fortes, puisque les faibles ne partent jamais. Non, non. Derrière la porte, sous nos peaux mortes. Derrière la porte, mais il est trop tard. Derrière la porte, sous mes peaux mortes. Derrière la porte, j'ai vu ton ombre m'oublier. Derrière la porte.
Et c'est Bizerne sur France Inter.
La tête au carré.
Au carré.
Dans les étoiles.
C'est la tête au carré.
On s'intéresse aujourd'hui au Soleil et en particulier à son activité avec mes deux invités astrophysiciens Étienne Baria et Alain Sacha Brun. Mais avant de partir vers notre étoile, j'aimerais profiter de votre présence pour vous poser une question au sujet de notre planète dont on a appris que l'axe de rotation avait été dévié de 8 cm suite au tremblement de terre de samedi au Chili. Ça fait la une de certains journaux aujourd'hui. D'après la NASA, donc la Terre tourne depuis samedi moins vite sur elle-même et les jours seraient plus courts de 1,26 millionième de seconde. Alors d'abord, est-ce que ce phénomène vous semble tout à fait exceptionnel ? Alain Sacha Brun, pour répondre.
Oui, apparemment, il y avait eu déjà un autre tremblement de terre en 2004 d'une magnitude 9,1 qui avait peut-être fait le même effet. Quelque chose près. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on vit sur des plaques qui bougent au-dessus d'un manteau. La constitution de la Terre est très particulière. Et donc, le réarrangement de la masse, des distributions de masse par ces tremblements de terre peut amener à ce qu'il y ait une réorganisation. Et il faut conserver toutes ces quantités de mouvement et de rotation. Donc, peut-être qu'un grand tremblement de terre peut éventuellement ramener une redistribution de masse différente et qu'il faille que ça se réajuste un petit peu. Mais on parle d'effets très petits. Mmh. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que les fameuses marées dont on parle de Lune, et là récemment qu'on crée ces problèmes qu'on a eu justement en Vendée et tout ça, c'est lié au fait qu'il y a une interaction entre la Terre et la Lune, et même avec le Soleil, on y reviendra. Et on sait qu'à peu près la rotation de la Terre se ralentit à peu près de 2 millièmes de seconde par siècle. Et donc on sait que le jour s'allonge déjà sur Terre. Donc qu'il y ait des phénomènes qui fassent que la rotation de la Terre change, ça paraît absolument pas surprenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de synchronisation des orbites. Il faut savoir que dans notre système solaire, pratiquement aucun satellite naturel, à part Hyperion autour de Saturne, n'a pas de face cachée. C'est-à-dire, comme vous voyez bien, la Lune a une face cachée, on voit toujours la même face. Et ça vient d'un effet des marées et de synchronisation des orbites. Et c'est pratiquement partout dans le système solaire le cas. Et donc, du coup, on s'attend à ce genre de phénomène. Et effectivement, sur le Soleil, le Soleil peut aussi avoir un impact là-dessus.
Alors lui aussi peut modifier la rotation de notre planète.
Oui, alors comme la Lune s'est synchronisée sur la Terre doit se synchroniser sur le Soleil. Mmh. Alors quand on fait les calculs, je n'ai pas les détails en tête, mais ça prendrait tellement longtemps.
Alors justement, ce qui étonne, c'est que la NASA ait pu le calculer aussi vite.
Calculer le calcul de redistribution des masses, oui. C'est surtout ça qui s'est passé. Il y a une redistribution des masses grâce à ce tremblement de terre, et cette redistribution des masses implique un léger, par conservation du mouvement cinétique, un léger changement du taux de rotation. Mais parce que il y a des endroits qui sont un peu déplacés, tout ça. Mais le calcul lui-même de redistribution des masses, je pense que ça peut se faire assez rapidement.
Le changement de rotation, cette déviation de 8 cm, c'est vrai que le calcul est quand même assez rapide.
Ils ont un modèle.
Certains astrophysiciens, d'ailleurs, doutent un petit peu de ces résultats aujourd'hui.
Je ne suis pas un expert de ça. Ouais. Mais ce que je peux dire, effectivement, c'est que l'aspect, synchronisation des orbites peut se faire. Alors, c'est différent du tremblement de terre, mais c'est similaire. C'est des effets de frottement de la croûte et tout ça. Et ça mettrait 50 ou 100 milliards d'années. Oui. Mais la Terre finirait par avoir une seule face qui serait face au Soleil, qu'un seul côté. Mais le Soleil sera mort d'ici là. Oui. Hein, puisque vous savez que le Soleil ne va vivre encore que 5 milliards d'années à peu près.
On est à mi-parcours.
On est à peu près à mi-parcours. Ouais. Hein.
Le Parisien nous apprend en tout cas aujourd'hui que suite au très violent tremblement de terre du Chili, mais là en 1960, qui était de 9,5 sur l'échelle de Richter, on a estimé que la planète avait dû bouger sur son axe de 60 cm à 1 mètre. Ça vous paraît plausible là aussi ?
Je suppose que si des gens qui ont fait des calculs, ils ont essayé de les faire bien. Hein.
Ouais. Étienne Paria, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, vous savez, sur les distances qui sont impliquées dans le système solaire, c'est en définitive pas si énorme que ça.
C'est pas grand-chose, ça c'est sûr.
Donc, bon.
Ouais. Donc le Soleil, puisque c'est le thème de notre dossier cet après-midi avec vous, peut aussi influencer, vous venez de le confirmer, la rotation de la Terre, pour nous faire donc peut-être dévier de quelques centimètres. J'aimerais d'abord qu'on présente un petit peu vos activités.
Juste ralentir le taux de rotation. Mm-hmm. En fait, quand on fait des calculs, et il y a un expert en France qui fait ça très bien, Jacques Lascar, il a démontré que la Lune avait en fait fortement aidé à la stabilisation de l'axe de rotation de la Terre. Parce que les effets de Jupiter qui fait un millième de la masse du Soleil et les effets très compliqués de dynamique du système solaire qu'on appelle le système à N-corps fait qu'en fait l'obliquité de la Terre, son excentricité et tout ça pourrait être beaucoup plus instable. Et c'est le cas de Mars, par exemple, qui est très instable, parce qu'elle a des petits satellites et qu'elle est beaucoup plus proche de Jupiter. Donc, en fait, c'est pas surprenant qu'il y ait des changements comme ça. Là, qu'ils soient internes à un fort dégagement d'un séisme, bon, c'est plus rare, on va dire, mais disons qu'on s'attend à ce genre de phénomène. Et par exemple, Mercure a été influencé fortement par le Soleil. Le Soleil est tellement loin que les effets par rapport à l'effet de la Lune sur la Terre sont moindres au niveau du changement de rotation. Mais on voit très bien cet effet du Soleil sur la planète Mercure, qui tourne trois fois sur elle-même dans le temps où elle fait deux tours du Soleil. Donc on voit bien qu'il y a eu ces phénomènes de synchronisation à l'œuvre.
Étienne Paria, Alain Sachambrin, donc vous êtes très complémentaires hein, tous les deux, puisqu'on pourrait résumer vos spécialités en disant que Étienne Paria, vous êtes spécialiste de la surface solaire, et Alain Sachambrin, vous êtes spécialiste de l'intérieur du Soleil. Ça vous va comme grossier résumé ?
Ouais, mes spécialités vont un peu plus haut que la surface. On va dire que je suis spécialiste de l'atmosphère solaire.
Alors, sur quoi vous travaillez exactement ?
Alors, je travaille essentiellement sur le déclenchement des éruptions solaires. Le Soleil a une activité, mais la quantité de matière qu'il nous envoie n'est pas tout le temps la même. Il y a des moments où il y a des soubresauts, où en fait il dégage énormément d'énergie. Et ce sur quoi je travaille, c'est d'essayer de comprendre véritablement comment ce type de phénomène se déclenche.
Mmh. Et en ce qui vous concerne, Alain Sachambrin ?
Oui, alors moi, en fait, tout à fait, en termes d'activité scientifique, nos origines sont effectivement plutôt l'externe pour Étienne et moi, plutôt l'interne. Mais c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je me bats et que Brigitte Schmider, une des responsables du groupe d'Étienne, on essaie d'arrêter cette vision. Et on veut voir le Soleil d'un point de vue intégré. Et on pense que c'est... Pour comprendre le magnétisme de surface et les activités magnétiques du Soleil, on est obligé de comprendre l'origine du magnétisme. Et cette origine, elle est interne. Donc, cette ségrégation du Soleil, cette espèce de séparation du Soleil en deux parties, l'intérieur plutôt lié à l'évolution des étoiles et l'extérieur plutôt lié à la physique des plasmas et de la haute atmosphère, moi, j'ai envie de, petit à petit de la gommer. Elle existe d'un point de vue sur certains paramètres physique, bien évidemment, mais il faut arriver à avoir un point de vue global du Soleil et une vue intégrée du cœur nucléaire à la couronne et au vent.
Donc, voilà. C'est ce que je disais, avec vos activités, vous êtes totalement complémentaires pour parler de ce sujet.
On collabore. Ouais.
Alors, parlez-nous de la technique d'abord de l'héliosismologie. En quoi ça consiste ? Qui veut répondre ? Étienne Paria ?
L'héliosismologie, ça consiste à étudier les ondes qui transitent dans le Soleil. Et ça nous permet de comprendre mieux la façon dont l'intérieur du Soleil est constitué, la quantité de la composition, à savoir quelle est la proportion, par exemple, d'hélium par rapport à l'hydrogène, qui sont les deux composants principaux du Soleil. Et pour cela, un des problèmes en astrophysique, et surtout sur le Soleil, c'est que l'intérieur du Soleil, on n'observe pas. Les photons, en fait, solaires, sont émis seulement à partir de ce qu'on appelle la surface solaire, qui n'est pas vraiment une surface, c'est juste... En fait, sa définition, c'est juste l'endroit où la lumière arrive à s'extraire de l'intérieur et parvenir jusqu'à nous. Et donc, on a, a priori, aucune information sur l'intérieur, à part vraiment cette surface qui vibre. De la même manière qu'une guitare, elle va présenter des variations de vitesse et qui vont, en fait, qui sont la traduction de toutes les ondes qui se propagent à l'intérieur. En étudiant donc ces vibrations, on est capable d'avoir une information sur la façon dont le Soleil va être constitué, sur les mouvements de plasma, sur les mouvements du matériel solaire, sur le mouvement des matériaux qui se trouvent à l'intérieur du Soleil. Et donc, on est capable de modéliser la façon dont notre étoile fonctionne.
Alors, quand vous parlez d'ondes, justement, quel type d'ondes est-ce que vous pouvez étudier pour avoir ce type d'information ?
Alors, donc, comme le disait Étienne, il y a beaucoup d'ondes dans le Soleil. Mais disons que celles dont on parle pour l'héliosismologie, celles qui ont été principalement observées jusqu'aujourd'hui, sont ce qu'on appelle les ondes acoustiques. Donc, c'est vraiment des ondes sonores. Mais il y y a un autre type d'ondes qu'on appelle les ondes de gravité, qui sont les ondes internes. Et celles-ci, elles ont l'avantage qu'elles sont beaucoup plus concentrées dans l'intérieur du Soleil, vers le cœur nucléaire. Et donc, les ondes acoustiques, il n'y en a pas suffisamment. On y arrive, mais on est à peu près limité aux entours de 20-30% par rapport au cœur. Donc, on en rentre 70% à l'intérieur. On a une bonne précision. Au-delà, ça devient difficile. Alors que les ondes internes de gravité, elles peuvent nous permettre d'avoir une bien meilleure information sur le cœur nucléaire et la partie vraiment très centrale qui contient le plus gros de la masse du Soleil.
Alors justement, nous allons écouter le Soleil, hein, ce qui n'est pas donné quand même à tout le monde ni tous les jours. Grâce aux instruments de la sonde SOHO, les scientifiques ont pu nous faire entendre les ondes sonores justement produites par le Soleil. Donc je vous propose d'écouter le son capté par SOHO et puis ensuite nous aurons les explications de l'astrophysicien André Braille que vous connaissez bien, qui avait interrogé il y a quelques mois Daniel Fievé justement pour La Tête au Carré.
Dans l'espace, il y a des ondes électromagnétiques, c'est la lumière qui nous transmet l'information, mais il n'y a pas d'ondes sonores. Cela dit, il existe des endroits bien particuliers où il y a des ondes sonores, et il s'agit de l'atmosphère des étoiles. Dans l'atmosphère du Soleil, il y a des endroits où des ondes sonores se propagent.
C'est-à-dire que si on était là, si malgré la température on pouvait être là, on les entendrait ?
Bon, vous mourriez instantanément compte tenu de la température. Mais imaginons que vous soyez fait d'amiante, de cordes extrêmement résistants, eh bien vous entendriez une très belle musique, en fait très belle, ça vous saturerait un peu les oreilles quand même. Vous entendriez un bruit infernal. Si vous vouliez dormir, vous taperiez du balai au plafond parce que vous ne pourriez pas dormir en quelque sorte. Je dirais d'une certaine manière, le Soleil est un peu une guitare. C'est-à-dire que quand vous agitez les cordes d'une guitare, la qualité du son vous donne une idée de la qualité de la boîte. De la guitare en quelque sorte. Un Stradivarius ne donne pas le même son qu'un violon de grande consommation, je dirais en quelque sorte. Et donc là, nous savons que le Soleil vibre. D'autres étoiles vibrent beaucoup plus. Mais ces vibrations du Soleil donnent de l'information sur l'intérieur du Soleil. Et une des tâches de SOHO, c'est justement d'étudier ces vibrations, ce qu'on appelle l'astérosismologie ou l'héliosismologie. La sonde SOHO n'entend rien. Elle n'a pas un micro qui recueille ce qui se passe.
C'est une musique théorique alors, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas vraiment.
Non, la musique existe. Mais nous ne pouvons pas l'avoir directement. C'est un petit peu, imaginez que dans un immeuble, avec un mur très épais, les gens jouent une musique très forte, même qui est Beethoven ou Mozart à l'intérieur, on voudrait les avoir en direct. Mais on ne peut pas, puisque les murs sont épais, on ne peut pas le saisir. Alors on ne peut pas mettre un micro, on n'entendait rien. Alors quelqu'un aurait inventé une technique qui permet de voir le mur avec une précision extraordinaire au micron près, et nous verrions avec cet instrument optique le mur vibrer très légèrement. Et de la vibration du mur, on remonterait au son qui a produit la vibration. Et nous savons que de la même manière, il y a d'autres étoiles, comme le Soleil, où il y a aussi en leur atmosphère une très belle musique. Alors pour l'instant, on ne peut que rêver, puisque à ces endroits-là, il y a des températures de quelques milliers de degrés. Donc à quelques milliers de degrés, tout est à l'état gazeux. Donc si je vous plongeais à cet endroit-là, vous vous transformez immédiatement dans une fumée. Mais enfin, on peut rêver que si on trouvait un détecteur, je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait imaginer, sur place, eh bien, nous aurions la musique des étoiles.
Voilà, c'est quand même un document exceptionnel, hein, de pouvoir entendre les ondes donc émises par le Soleil.
Oui, donc comme je peux vous dire un peu plus précisément, puisque dans notre laboratoire, nous avons développé un instrument qui s'appelait Golf, qui fait partie de SOHO, avec d'autres collaborateurs, bien évidemment. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, comme le disait Étienne, l'atmosphère du Soleil va vibrer sous l'influence de ces ondes. En fait, il y a ce qu'on appelle de la convection à la surface du Soleil, et ces granules de convection crient, en fait, quelque sorte, ils s'expandent et ils génèrent du son, ils poussent les choses, ça crée du son. Parce que le son, c'est une onde de pression, en fait. Hein. Donc, s'il y a du vide, vous ne m'entendrez pas. Il faut souvent, je prends souvent l'exemple d'une radio. Une radio, comme ici, c'est bien le cas. Vous avez un récepteur d'une onde électromagnétique qui se déplace, qui arrive avec l'antenne. Et après, vous avez bien une baffle qui va pousser l'air pour que ça vienne à votre oreille. Votre oreille, c'est quoi? C'est comme un transistor à l'inverse, quoi. Elle convertit ça en signal électrique pour votre cerveau. Alors, donc, vous avez la vibration de cette surface. Cette surface, c'est la lumière. Donc, ce qu'on capte, en fait, c'est une légère vibration de lumière. Et cette légère vibration, après des bons filtrages, ce qu'il faut faire, on arrive après, on a donc une série temporelle, enfin un signal qui dépend au cours du temps. Ce signal au cours du temps, la vibration du Soleil, c'est 5 minutes de période, donc ça correspond à 3 millihertz. Or, l'oreille entend de 20 hertz à 20 kHz. Donc, vous êtes beaucoup trop bas. Si on part comme dans le principe de la musique, qu'un octave c'est un doublement de la fréquence, que je suis avec un La à 440 Hz, je le double, le La de l'octave dessus c'est 880 et celui d'en dessous c'est 220 Hz. Si on fait ce système de doublement des fréquences pour savoir combien d'octaves nous séparent de la vibration solaire pour pouvoir l'entendre dans l'oreille, il faut 17 octaves. Donc il faut doubler 17 fois cette fréquence pour qu'elle arrive dans la gamme de ce qu'on pourra entendre. Mais bien évidemment, il y a le vide, on ne peut pas coller notre oreille sur la surface du soleil pour l'entendre. Donc c'est une interprétation de ce signal lumineux qui varie dans le temps, qu'on a translaté dans la gamme audible
pour se faire une idée de ce que
c'est
ça représente.
C'est une traduction, comme l'expliquait d'ailleurs très bien André Braïc, hein, dans ce son. Est-ce qu'il y a quand même une variété sonore que vous pouvez entendre du soleil? Parce que là, on entendait quelque chose d'assez régulier.
Ben, c'est en fait, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est du bruit, parce que si vous voulez, c'est chaque onde est bien, mais comme il y en a beaucoup, en fait ce qui se passe, si vous voyez, le problème du soleil, c'est que c'est une sphère. Le soleil serait un cube, on pourrait peut-être avoir des modes vraiment propres qui se retombent les uns sur les autres. Oui. Le problème, c'est comme c'est une sphère, les harmoniques des uns et des autres ne se retombent pas complètement dessus, et donc petit à petit, vous remplissez votre spectre acoustique, et c'est pour ça que vous avez tendance à avoir plus en plus de pics d'intensité et de son, quoi.
Voilà, donc on voulait offrir ce son du soleil aux auditeurs de la Tête au Carré cet après-midi. On va parler avec vous donc de l'activité solaire et de cette reprise, hein, donc il y a quelques mois à peine, avec les questions qui arrivent également sur le site de l'émission sur franceinter.com.
Dans l'atmosphère du soleil, il y a des endroits où des ondes sonores se propagent.
Angus et Julia Stone avec Big Jet Plane sur France Inter. Nous sommes dans la Tête au Carré pour parler du soleil avec deux astrophysiciens, Étienne Paria et Alain Sacha Brun. Et vos questions arrivent sur franceinter.com. C'est le cas de Corinne qui nous écrit de Toulouse et qui vous demande pourquoi le soleil est sphérique. tout simplement.
Bah, il est sphérique parce que lorsque le nuage de gaz qui a formé, qui s'est contracté sous l'effet de la gravitation, c'est fait que la force de gravité est quelque chose d'une force radiale, donc elle forme une structure sphérique qui se trouve être aussi la structure qui en fait permet de maximiser la quantité de matière en minimisant la quantité d'énergie nécessaire.
En combien de temps le Soleil s'est formé d'ailleurs ?
Le Soleil met à peu près pour faut savoir que les étoiles, leur formation et leur vie dépendent de leur masse principalement et un peu de leur composition. Dans le cas du Soleil, on pense qu'il a sa phase qu'on appelle de préséquence principale, là où il brûle pas encore son hydrogène, est peu près de l'ordre de, on l'évalue aux alentours entre 30 et 50 millions d'années. Mmh. Mais pour le Soleil, il faut voir que c'est dans les corps qui sont autogravitants, qui sont sphériques, et on voit bien qu'il y a des astéroïdes dans l'espace qui sont pas du tout sphériques, et à peu près on évalue pour que ça devienne autogravitant de l'ordre de 600 km de rayon, l'objet, en dessous duquel vous pouvez avoir une forme patatoïde, mais au-delà, les forces de gravité et les différences qu'il y aurait entre des formes vraiment complètement seraient telles que ça finit par être sphérique.
Philippe nous écoute à Toulouse et il vous demande si les données relevées tous les jours par les astronomes amateurs bénévoles au coronographe du Pic du Midi sont utilisées dans vos travaux et ailleurs.
Alors, elles sont utilisées. En fait, le Soleil est en permanence ausculté et surveillé. Et s'intéresser à l'activité solaire, c'est recueillir le maximum de données du maximum d'observatoires différents. Donc, tout type de données, effectivement, utilisées. Il y a un certain nombre de personnes qui utilisent ces observations du coronographe du Pic du Midi.
Et vous avez la possibilité de tout traiter ou pas? Parce qu'on va voir le problème qui va se poser avec le satellite SDO. Vous allez être vraiment sous une avalanche de données qui vont vous arriver. Alors, vous arrivez à tout traiter ou pas?
Est-ce qu'on a En fait, on n'a pas besoin de tout traiter. Ce qui nous intéresse, le Soleil, on l'observe depuis longtemps. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas ce qu'il fait maintenant, à l'instant, au moment de cette émission. C'est certains événements particuliers qui vont nous apprendre plus sur la physique du déclenchement des phénomènes. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'on cherche véritablement à déterminer. Donc, toutes les données ne sont pas nécessaires. Mais simplement, pour trouver l'instant qui va être intéressant, il faut l'observer tout le temps.
Mm-hmm. Alors la NASA justement a lancé il y a à peine un mois SDO, c'est le satellite Solar Dynamics Observatory, et c'est une mission à laquelle participe votre laboratoire, Étienne Paria. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce satellite va précisément observer ?
Alors donc SDO, c'est une mission de la NASA qui se compose de trois instruments. Le premier s'appelle HMI, qui va s'intéresser à mesurer le champ de vitesse, les oscillations du Soleil, mais aussi à mesurer le champ magnétique présent à la surface du Soleil. Il y a un deuxième instrument qui s'appelle AIA, dans lequel mon laboratoire est directement impliqué, qui lui va s'intéresser à l'atmosphère, à savoir mesurer la température des structures, des boucles que l'on observe dans la couronne. Si on voit des images du Soleil, on voit qu'il y a des boucles. Donc l'objectif de cet instrument, c'est de véritablement mesurer de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus rapidement, surtout, de ce que l'on faisait avant, ces structures. Et
donc là, vous allez recevoir beaucoup d'informations précisément avec cet instrument.
Énormément d'informations. Ouais. Pour donner un ordre de grandeur, on va recevoir, alors le terme technique, c'est qu'on va recevoir 1,5 terabits de données par jour.
Ça veut dire quoi ? Traduction ?
Ça veut dire, en gros, un demi-million de chansons type MP3.
Tous les jours ?
Tous les jours. Ou 300 DVD.
Oui.
C'est une quantité de données qui... C'est en fait la mission qui va envoyer, qui envoie 50 fois plus de données que toutes les autres missions NASA envoyées jusqu'à l'heure
actuelle. Et on embauche dans votre profession en ce moment pour s'occuper de l'analyse de ces données ou pas ?
On embauche pas suffisamment selon ce que dirait certaines personnes.
Non mais comment vous allez faire concrètement pour traiter autant d'informations ?
Comment on va faire ? En fait, ça va être un vrai problème. Enfin, un vrai problème qu'on va résoudre. Ça va changer véritablement la façon dont on fait la science, dont on observe le Soleil. Ce qu'on faisait précédemment, c'est que vous aviez une observation où journalièrement, vous pouviez regarder le Soleil, vous voyez qu'il y avait une éruption, j'imagine qu'on y reviendra, donc il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc hop, vous allez récupérer les données, vous allez les inspecter, vous les téléchargez sur votre ordinateur, les inspecter et voir si effectivement il y a un contenu scientifique. Avec SDO, La quantité de données que vous devriez télécharger sur votre ordinateur personnel est tellement importante que vous n'allez pas pouvoir faire ça. Donc en ce moment, la NASA développe un certain nombre de logiciels qui sont destinés à tout le monde, mais en particulier à la communauté scientifique, qui vont en fait réduire la quantité d'informations. Ça va marcher un peu comme Google Earth, si vous êtes familier, ou comme Google Maps. Vous ne téléchargez pas tout de suite toutes les images de la base de données. Vous allez d'abord télécharger une image à basse résolution, vous allez voir la Terre de très loin, et éventuellement, en vous rapprochant, vous allez télécharger de plus en plus d'informations. Il va falloir faire une chose comme ça. Il y a une petite différence, néanmoins, avec Google Earth, c'est que ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est la dynamique du Soleil. À savoir, on va regarder des films, on va observer le Soleil dans le temps.
Ouais.
Donc, non seulement il va falloir diminuer la quantité, on ne va pas regarder seulement une image, on va regarder plusieurs images. SDO nous envoie une quantité d'informations, des photos qui sont prises à vraiment intervalles très réguliers et beaucoup plus rapidement que précédemment. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir essayer de ralentir. Au lieu de prendre toutes les images, on va prendre 1/10, 1/20. Et s'il y a quelque chose de vraiment intéressant, on va augmenter la cadence.
Alors SDO pourrait vous permettre de répondre à quelles questions que vous vous posez, évidemment, en ce moment au sujet du Soleil?
Alors il y en a, il y a beaucoup de questions. Celle qui m'intéresse, mon groupe de recherche, c'est l'activité solaire. Mm-hmm. C'est ces éruptions. Donc une éruption, c'est un moment où une structure au niveau du Soleil va libérer son énergie, éventuellement va interagir avec la Terre. Et ce qui nous intéresse, c'est savoir quand est-ce que ça arrive. C'est véritablement arriver à prévoir ce type d'événement dans la perspective de ce qui s'appelle de la météorologie de l'espace.
Oui.
SDO devrait nous permettre de voir plus d'informations, une meilleure compréhension, parce que, par exemple, la source de cette énergie, on va pouvoir la mesurer plus précisément. On va aussi être capable, grâce à l'instrument AI qui regarde donc ces boucles coronales dans la température, de voir s'il n'y a pas des événements précurseurs qui peuvent nous indiquer le moment où cette structure catastrophiquement va entrer en éruption et va éjecter de la matière dans l'espace interplanétaire.
Alors la mission de ce satellite, c'est 5 ans. Il va se trouver à 35 000 km de la Terre, c'est
Alors,
ça ?
Alors il a une orbite... il a une orbite très particulière, effectivement. Alors, la mission nominale, c'est 5 ans. Il a du carburant pour 10 ans.
Oui.
Une mission, en général, SOHO, était prévue aussi pour durer 5 ans. Il fonctionne encore très bien et c'est toujours...
Donc, on exploite encore, évidemment, les possibilités.
Une mission, ça s'exploite en général plus longtemps que la phase nominale de 5 ans. Et je ne me souviens plus de la question.
Eh bien, je vais vous poser une question sur les cycles solaires, puisque c'est quand même le thème d'aujourd'hui qui nous intéresse en particulier, Alain Sachambrin.
Oui, alors moi, je voulais dire effectivement que SDO, bien évidemment, le cycle solaire, on va en parler, mais SDO aussi, par l'étude des flots de sous-surface, va faire une héliosismologie qui est locale. Quand on regarde les étoiles de loin, quand on fait l'astérosismologie, on n'a pas assez de détails. Et donc, ce qu'on regarde, c'est les modes de vibration des étoiles, mais globaux, qui font vibrer... en gros, toute l'étoile ou des grosses parties de l'étoile. Là, avec SDO, on va pouvoir faire de l'héliosismologie locale et on va pouvoir regarder, par exemple, comment les ondes acoustiques qui passent à travers d'une tache solaire sont perturbées. Et grâce à cette héliosismologie locale, on va pouvoir être capable de sonder la structure magnétique en dessous de la tache solaire qu'on aperçoit. Alors, bien sûr, avec HAI
l'un des instruments.
L'instrument qui fait la partie ultraviolette, c'est-à-dire la partie haute atmosphère et haute température, va regarder les structures magnétiques au-dessus, mais on n'a pas l'information pour en dessous. Et l'information pour en dessous, ça va être les sismologies locales. Donc ça va nous être très utile pour mieux comprendre aussi ce qu'on appelle un fort cisaillement, parce que le Soleil tourne de façon différentielle. Il tourne plus vite à l'équateur qui tourne au pôle. Et donc, le profil de cette rotation et comment cette rotation se pénètre à l'intérieur du Soleil et comment elle change, comment le profil change en rayon et en latitude est très important.
Cette question de Didier qui nous écoute à Senlis, donc on parlait tout à l'heure du déplacement de la rotation de la Terre suite au tremblement de Terre. Alors Didier nous dit ceci, qu'en est-il du Soleil qui lui est soumis à des explosions nucléaires en permanence ?
Alors là, je crois que bon, il y a peut-être une confusion dans les termes. Il y a des éruptions à la surface du Soleil, ne sont pas thermonucléaires, la source d'énergie n'est pas liée à ça, c'est des instabilités magnétiques. Donc c'est un peu comme des configurations un peu compliquées avec un élastique. Si vous le tournez, puis d'un coup vous le lâchez, il va se remettre droit. Donc c'est plutôt ce genre de phénomène qui se passe, configuration magnétique complexe. Et à l'intérieur du Soleil, la combustion nucléaire du cœur nucléaire du Soleil, qui est la source de son énergie, ça c'est plutôt très lent et très, très doux comme phénomène. Donc, il y a effectivement des moments gravitationnels du Soleil et sa structure qui est proche d'une sphère, mais pas complètement sphérique, a des effets, mais il y a pas, c'est pas la même chose que... Les quantités de matière qu'il éjecte sont faibles, mais ça serait intéressant de voir de combien ça varie. Bon, c'est la masse du Soleil, pour avoir brillé pendant 4,5 milliards d'années, n'a changé que de 0,5% en total. Parce que ça, c'est grâce à E égale MC2, et c'est tellement efficace dans les réactions nucléaires que finalement, la conversion des protons en noyaux d'hélium a permis au Soleil de briller 4,5 milliards d'années.
Alors, sur les cycles solaires, puisque je le disais tout à l'heure, le Soleil vient de sortir de sa léthargie après une période de 2 ans, vous allez me le confirmer, plus longue que prévu, paraît-il, hein, par les scientifiques. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce cycle soit plus long que prévu ?
Ben, en fait, si on regarde dans l'historique, on a plusieurs moyens de regarder dans l'historique des cycles solaires. Aujourd'hui, on entame le 24e, et parce que cette numérotation a commencé après, on va dire, le règne du roi Soleil, donc au début du 18e siècle. Mais en fait, en pratique, 1715 ou des choses comme ça. Et donc, on se retrouve dans une situation où on peut aller avant, grâce au carottage glaciaire, on peut retrouver l'influence du Soleil. Et donc, on a à peu près une historique des cycles solaires sur 10 000 ans.
On en a tiré comme conclusion, on a fait des moyennes.
Hein, voilà.
Et qu'un cycle solaire faisait
11 ans à peu près.
11 ans à peu près.
Voilà, mais avec des variations qui allaient de 8 ans à 14 ans à peu près.
Donc, on est dans la marge
possible. On est tout à fait dans le domaine du possible. Et il faut savoir que le Soleil est un système dynamique, complexe, et qu'il n'y a pas de raison que la période d'oscillation de son cycle, de variation de son cycle solaire, soit réglée comme une horloge suisse et ne change jamais.
Alors, quels sont les signes d'un nouveau cycle, précisément ?
Alors, ça, c'est très simple, c'est l'apparition de taches au niveau de sa surface. L'activité solaire, un des premiers signes, et historiquement, le signe qui nous a permis de suivre l'évolution du cycle, c'était le nombre de taches qui apparaissaient, qui étaient présentes au niveau de la surface.
Et qui correspondent à quoi,
Ces taches, en fait, ça correspond à des zones de concentration du champ magnétique. Le champ magnétique, dont on a parlé plusieurs fois déjà, est en fait la véritable source l'activité solaire, le véritable moteur. Et c'est ça qui va d'ailleurs être le principal générateur de tout ce qui est éruption et éjection de matière en provenance de l'atmosphère solaire.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on lisait ici ou là que les scientifiques étaient très étonnés de cette cessation d'activité de la part du Soleil, alors que vous avez l'air de dire que c'est tout à fait normal et qu'on était dans un cycle qui n'avait rien d'étonnant, justement.
Dans la question que vous posiez le dire que ce cycle était plus long que prévu. Le vrai problème, c'est le prévu.
Voilà.
C'est que... on se rend compte, c'est peut-être à notre faute, que notre niveau de compréhension du cycle solaire est beaucoup plus faible que ce que l'on aimerait.
Donc, il faut que la science ait beaucoup plus d'informations. Voilà, et ça sert avec les instruments que vous envoyez dans l'espace.
Ce qui s'est passé, c'est que faire la prédiction de l'activité solaire est très importante parce que le Soleil, par ses éruptions, a un impact sur notre société. Technologiques,
alors,
au niveau des communications,
les
communications, les signaux radars. Ce qu'on y voit le plus beau pour nous, c'est les aurores boréales aux hautes latitudes de la Terre. Donc ça, il est important de pouvoir anticiper. Et le but de SDO, en partie, c'est d'essayer de développer des diagnostics qui vont nous permettre d'anticiper les éruptions, mais... Ce qui est encore plus aussi important, c'est d'arriver à anticiper l'activité globale qui est modulée à peu près de 11 ans.
Oui.
Les dernières prédictions qui avaient été faites pour la fin du cycle 23 étaient erronées. et l'amplitude du cycle n'était pas la bonne. Et donc, par rapport à ça, on s'est retrouvé dans des situations où les gens pensaient que le cycle allait repartir plus tôt qu'il n'est reparti. Mais ça prouve qu'effectivement, en termes de prédiction, c'est toujours très difficile, on a encore des progrès à faire et on doit apprendre nos collègues météorologues et ce qu'on est en train de faire pour pouvoir faire des modèles plus précis.
Alors, il y a beaucoup de questions justement sur l'impact du soleil sur le climat de notre planète. Les auditeurs ont des questions à ce sujet. Je vous les pose dans quelques instants après Émilie Simon. Désert, Émilie Simon.
Les trous noirs ne sont pas que des objets gravitationnels.
La tête.
Mais ça va pas, la tête.
La tête.
Eh, la tête au carré.
Sur France Inter.
Étienne Paria et Alain Sachabrin sont astrophysiciens. Vous êtes nos invités pour parler du soleil, de l'activité solaire. Donc vous allez répondre dans un instant aux nombreuses questions qui arrivent sur l'impact précisément de l'activité solaire sur le réchauffement de notre planète. Avant ça, une question de Martine qui demande comment vous y prenez pour mesurer la température du soleil. Est-ce que vous avez un thermomètre particulier? Et est-ce que le soleil peut exploser?
Alors, pour mesurer la température du soleil, en fait, il n'y a pas une température du soleil.
La gamme est vaste.
La gamme est très vaste. Elle peut aller de,
voilà,
ça peut aller de 5000 degrés.
Ça, c'est l'extérieur.
Ça reste chaud. C'est juste au niveau de la surface, jusqu'à 15 millions de degrés au cœur du soleil. Et parfois, lors des éruptions solaires, le plasma, le matériel qui compose l'atmosphère, va aussi être chauffé à 20 millions de degrés. Donc l'atmosphère solaire, parfois, peut être plus chaude que son intérieur.
Et à quoi ressemble votre thermomètre alors pour le mesurer ?
Ça ressemble à une caméra. Ce que je fais, c'est que je vais étudié les photons, je suis un astrophysicien, j'étudie la lumière, et certains photons vont être, certaines composantes de la lumière vont me dire que la température à laquelle ils ont été émises correspond à 20 millions de degrés.
Est-ce que le Soleil pourrait exploser ? C'était la seconde partie de la question de Martine.
Non, en fait, comme on l'a dit plus tôt, le Soleil n'a pas une vie éternelle, malheureusement pour lui.
Mais le scénario est bien connu.
Le scénario est bien connu, et le Soleil étant une étoile plutôt de faible masse, il va finir en nébuleuse planétaire, et donc il va, après une succession de fortes oscillations qui vont être lors de sa phase dite de géante rouge, voire même au-delà, il va finalement expulser son enveloppe, et on va retrouver au milieu un gros diamant, une naine blanche. Donc j'ai tendance à dire à mes copains, si votre femme vous demande la lune, heureusement qu'elle ne vous demande pas le diamant qui est la naine blanche.
Inestimable.
Et voilà, inestimable, la taille de la Terre, un diamant de la taille de la Terre. Voilà, donc des milliards et milliards de carats.
Et tout ça est prévu pour
à peu près
5 milliards d'années.
Oui, un peu plus, 5,5 milliards d'années.
Il va falloir attendre un peu.
Voilà. Oui, on ne sera pas là, hélas, pour le voir.
Donc ce n'est pas une explosion, mais c'est une
dilatation.
Grosse dilatation, à peu près jusqu'au rayon de la Terre, pas tout à fait.
Ah oui, quand même.
Donc la Terre ne sera pas engouffrée, mais après, cette enveloppe va finir par osciller et va s'expulser.
Oui, enfin, la Terre sera un caillou tout sec à ce moment-là.
Tout sec, exactement.
Aurore est à Metz, elle vous demande si les éruptions solaires se produisent de façon régulière, de telle façon qu'on pourrait dire que le Soleil bat comme un gigantesque cœur.
Je ne dirais pas ça, je dirais que ce qui se passe, c'est que, en fait, avec l'activité magnétique, qui peut être plus ou moins intense, comme on l'a vu, quand on parlait du cycle de 11 ans, ça veut dire que parfois l'activité magnétique est intense, il y a beaucoup de taches solaires à la surface et parfois elle est faible.
Oui.
En fonction de cette activité, intense ou pas intense, le nombre d'éruptions peut augmenter ou diminuer. Voilà, c'est ça qu'on peut dire.
Alors, vous disiez bien tout à l'heure que la prédiction des cycles est importante pour nous qui sommes sur Terre, pour notre société, technologie, communication, signaux radar, etc. Est-ce que d'ailleurs la panne d'électricité au Québec en 89, je crois, est liée directement à l'activité solaire ?
Tout à fait.
C'était
tout à fait.
Ça,
C'est ce qu'on appelle.
Il y a eu une éruption particulièrement importante, une éjection de matière coronale qui a induit des courants dans les systèmes électriques des compagnies d'électricité au Canada, qui ont à peu près la taille de la Terre, de ces structures. Et il y a eu un court-circuit qui a abîmé et fait disjoncter le système.
Alors, donc, on voit l'impact du Soleil sur la Terre est évident. Et de nombreuses questions, celles de Christine ou de Cédric, où en est-on sur la connaissance du lien ou non entre l'activité solaire et le climat sur Terre. Et Cédric nous demande, que pensez-vous du réchauffement climatique causé par une modification de l'activité du Soleil et non pas en raison du CO2? Alors, c'est le débat du moment, impact humain.
C'est une question qui est tout à fait
solaire.
Voilà, qui est tout à fait légitime. Moi, je crois qu'il faut distinguer dans ce débat sur le réchauffement climatique la partie qui est devons-nous conserver notre mode de vie d'occidentaux avec 12 télés et 7 voitures, ou est-ce qu'on doit
Vous avez de la chance.
Non, je plaisante, mais je caricature exprès. Et non, ça, c'est une question d'un côté. Oui, je pense que c'est clair pour tout le monde que si on continue à tous vivre au rythme des occidentaux, il nous faudrait 2 planètes Terre pour les 6 ou 8
milliards
d'années.
Donc l'impact anthropique est effectivement évident.
Donc, mais si on met ça de côté maintenant et qu'on essaie de voir d'un point de vue scientifique quel est l'impact du Soleil, dans le dernier rapport du GIEC, peut-être qu'Étienne ne sera pas tout à fait d'accord avec moi, ils ont minimisé ça à 10% l'impact du Soleil. Et moi, je pense, connaissant la difficulté des modèles climatologie, la description numérique de ces modèles, et puis le fait que la variation du spectre solaire en l'ordre de l'activité change beaucoup plus que sa luminosité intégrée. Parce que là, ça module de 0,1% à peu près au cours du cycle solaire, et cet impact n'est pas très important. Mais par contre, dans l'ultraviolet, ça peut être de l'ordre de 50% l'augmentation, et dans le rayon X, ça peut aller jusqu'à un facteur 100. Fois 100. Donc là, on voit bien que dans des gammes d'énergie à haute énergie, même si sur le spectre total intégré d'énergie, ça peut paraître faible, dans des gammes bien précises qui peuvent avoir un impact direct sur la chimie de l'atmosphère, ces aspects multilongueurs d'onde de l'activité magnétique du Soleil n'ont pas encore été bien pris en compte par les modèles.
Ça, c'est le problème. C'est qu'au niveau de la modélisation, nous ne sommes pas encore au point pour évaluer convenablement l'impact du Soleil sur le réchauffement climatique.
D'ailleurs, à ce niveau-là, le rapport du GIEC est clair. Si vous prenez le rapport, il dit que la compréhension de ce type de phénomène est faible à très faible. Et d'ailleurs, j'en profite pour reparler de SDO. Il y a un troisième instrument qui va s'appeler Yves, dont l'objectif.
Alors, Eve ou Yves, c'est pas pareil.
Yves en anglais, Eve en France, Eve, je vais l'appeler Eve. La compagne de la Terre, qui va mesurer ce flux ultraviolet. Pour la première fois, essayer véritablement de déterminer quelles sont les variations de la partie la plus fluctuante de l'énergie lumineuse que nous envoie notre astre.
Et là, on aura les résultats quand, a priori ?
Alors, on a les résultats tout le temps. C'est déjà des choses qui ont déjà été faites. Simplement, on aura plus de précision.
Il faut les intégrer.
Et plus de précision. Et d'ailleurs, c'est un problème. Il y a toujours une différence entre précis et exact. À savoir que des instruments ont déjà été envoyés, mais il faut toujours les calibrer. On n'envoie pas un instrument... on envoie un instrument, il vous donne des valeurs, mais ça ne veut pas dire que ces valeurs vont être toutes constantes. Récemment, il y avait deux instruments qui mesuraient ça, qui donnaient des valeurs différentes. Ils étaient très précis, mais qui donnaient des valeurs différentes. Et en fait, avec la mission SDO, donc il y a un instrument qui va être envoyé, et en même temps, on va envoyer des sondes, il y a cinq sondes qui vont être envoyées, qui vont faire exactement la même mesure que le satellite, pour qu'au cours du temps, au cours des 5 ou 10 ans que vont durer la mission, de pouvoir être sûr que la valeur qui est mesurée soit bien, soit la même.
Alors, puisqu'on disait tout à l'heure que le Soleil était dans une phase de sommeil, hein, quasiment, que là, il y avait un réveil de son cycle, est-ce que concrètement, on peut le corréler à soit une baisse des températures avec une moindre activité, et aujourd'hui que l'activité reprend, est-ce qu'on pourrait imaginer à nouveau que les températures augmentent ? Est-ce qu'on peut faire la comparaison aussi grossièrement que ça ?
De ce que l'on sait, l'activité solaire a une influence, pas sur des échelles courtes, à savoir l'année, mais véritablement sur des échelles au long terme. À savoir, c'est est-ce que les cycles qui avaient lieu, par exemple, il y a 100 ans, sont plus faibles ou plus importants qu'aujourd'hui. On sait qu'il y a eu une période où il y avait très peu de cycles solaires, qui appelait le terme technique, c'est le minimum de Monter, c'est au moment de Louis XIV, au moment du roi Soleil, le Soleil ne présentait pas de tâches. Et on sait qu'à ce moment-là, les températures sur Terre étaient plus faibles. Mais il faut que ce processus ait lieu sur des durées qui sont de l'ordre de 30 ans.
Merci beaucoup à tous les deux, Étienne Paria et Alain Sacha Brun. Et donc, bon courage avec toutes les informations qui vont vous parvenir de ce satellite SDO, donc, qui est déjà à 35 000 km de nous pour observer donc, le Soleil. Merci beaucoup.
Merci.